J'ai intitulé ma présentation « La réduction des vulnérabilités au changement climatique et le projet de viabilité urbaine ». L'idée, c'est peut-être de planter le décor assez rapidement à travers peut-être des réflexions issues des travaux présentés par le GIEC et des débats qui ont cours actuellement à l'intérieur des sciences d'environnement. Donc, la ville est désormais au cœur de l'agenda de l'adaptation au changement climatique, plus particulièrement à partir du rapport 4, où le débat qui était porté sur les impacts des activités anthropiques sur les bouleversements du climat. Je crois qu'exception faite de quelques personnes en manque, disons, de visibilité peut-être, ou souhaitant remuer la cage inutilement, à part quelques climats sceptiques, la chose est entendue. La question est rapidement devenue, et donc, que faire, malgré les efforts qui devront être consacrés par rapport à la réduction de la production des gaz à effet de serre, tous les efforts de mitigation qui occupent aussi le dessus du tableau, par rapport à la question générale des changements climatiques, en reste pas qu'on est confronté au fait que, quoi que nous faisions, on sera confronté à des bouleversements, à des hausses de niveau d'eau des mers, à la multiplication des événements extrêmes, à des périodes de canicule, de sécheresse de plus en plus sévères. Et donc, on a la responsabilité, en tant que chercheur, en tant que citoyen, de déjà commencer à réfléchir à que faire, comment prévenir, et comment s'organiser pour anticiper et trouver les réponses adéquates qui seraient scientifiquement défendables, mais aussi socialement acceptables. Voilà le contexte dans lequel s'engagent nos discussions pour aujourd'hui et demain, et sans doute au cœur de nos ateliers. Donc, si on regarde un peu l'évolution de la réflexion sur la question de l'adaptation, des impacts des changements climatiques, on est parti d'une préoccupation des scientifiques qui portait d'abord sur les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes. Et c'est peut-être plus tardivement que nous passons maintenant à la vulnérabilité des populations, des communautés et des villes. Petite définition qui est assez usuelle dans la littérature spécialisée. Prenons d'abord l'adaptation qui consiste en un ajustement à l'intérieur d'un système naturel ou humain en réponse à un stimulus climatique ou à ses effets, actuels ou envisagés, incluant la variabilité et les extrêmes du climat. Par opposition, je dirais quasiment, vous allez voir dans le développement de mon raisonnement, on arrive à la question très rapidement, par-dessus les impacts, à la question des vulnérabilités, qui renvoie, elle, à la capacité ou l'incapacité de faire face aux effets néfastes des changements climatiques. La vulnérabilité d'un système est une fonction de la nature, de l'ampleur, du rythme du changement climatique auquel il est exposé, de sa sensibilité et de ses capacités adaptatives. Donc, du point de vue des climatologues, des sciences dures, et on aura l'occasion d'en débattre, la vulnérabilité se présente en termes de raisonnement comme la résultante des changements climatiques. Ceux qui se sont particulièrement penchés sur la question des impacts ont eu comme réflexe, j'oserais dire, peut-être avec un brin d'humour, d'avoir un réflexe d'entomologiste et de regarder comment la transformation du milieu biophysique, de la température ambiante peut avoir un impact et qui occasionnera une réponse spontanée de la part des populations, comme s'il n'y avait pas de filtre entre la transformation physique du milieu et une réponse d'une communauté, d'une société, d'une ville. Cette relation un petit peu directe, un peu trop étroite, qui est contestable à ce moment ici, et c'est sur ça que mon propos va se poursuivre. Du point de vue des sciences humaines et sociales, la vulnérabilité est considérée comme déjà inscrite dans une société, dans une communauté. C'est la capacité d'une personne, d'une communauté, d'une ville d'anticiper, de répondre, voire de se rétablir suite à des événements extrêmes ou des transformations du cadre de vie. De la ville forteresse, créatrice de civilisation, de richesse, rencontre des cultures, espace de liberté, la ville protectrice, la ville stratégique. On passe aujourd'hui à une autre vision des choses. S'impose à nous la ville productrice de vulnérabilité. Hein, la ruée vers les villes, en 1950, 29% de la population mondiale s'y retrouvait. Notre projection la plus raisonnable arrive à peu près à 60% de la population de la planète qui habitera les villes au tournant des années 20-30. Donc, le projet de viabilité urbaine qui est débattu depuis Rio, qui s'inscrit dans un discours dominant désormais sur le développement durable, sur la viabilité urbaine, doit, à mon avis, faire place, incorporer nécessairement la question de la réduction des vulnérabilités. Quels sont les facteurs de vulnérabilité des villes? À travers la littérature, on arrive rapidement au premier constat, qui est le site géographique, une ville en bordure de mer, avec les hypothèses et scénarios qui posent le problème de l'élévation des niveaux de mer, les zones climatiques. Si on prend Montréal comme exemple, voilà aujourd'hui un bel exemple d'un événement qui n'est pas fréquent, une neige presque à l'arrivée du mois de mai, des épisodes de verglas, des inondations possibles compte tenu de l'évolution des pluviométries. Donc, évidemment, le site et la zone climatique sont des éléments fondamentaux à retenir lorsqu'on tente d'essayer de saisir, de caractériser les vulnérabilités des villes. Mais s'ajoute aussi la connaissance des phénomènes et des impacts, pour ne pas dire la conscience au niveau des décideurs et des citoyens des risques possibles et voir comment déjà il y a une sensibilité dans différents choix dans la vie du quotidien, comme dans le choix de la construction d'une maison ou de l'aménagement de la ville ou de l'installation d'un équipement, nécessairement d'avoir déjà à l'esprit un certain nombre d'hypothèses par rapport à des risques qui sont désormais un petit peu plus saisissables qu'il y a quelques années, risques sévères dans certaines circonstances, particulièrement par rapport aux inondations. Si on regarde ici la région montréalaise, archipel qui est un peu à la merci souvent des crues, la rivière des Outaouais par exemple. Capacité institutionnelle, comment les institutions en place ont des ressources, des capacités pour s'ajuster, pour développer de nouveaux services, de nouvelles compétences face à ces nouveaux risques. Et donc, on le voit, non seulement dans les pays du Sud, mais dans les pays du Nord, un immense défi qui se présente désormais aux services municipaux, aux décideurs, de voir comment ils peuvent intégrer dans leurs préoccupations du développement de la ville, de l'amélioration du cadre de vie, une préoccupation qui se présente négativement, mais qui doit nécessairement être incorporée dans la réflexion sur la ville du futur. Il y a évidemment la dimension du capital social, comment les réseaux sociaux, comment les interactions, les interdépendances, les normes, les façons de coopérer qui sont propres à une culture, propres à une ville, peuvent être plus ou moins déjà dans le sens de construire des solutions et de favoriser l'organisation collective d'une réponse adaptative à ces nouvelles menaces qui se présentent à nous. Enfin, l'état de l'économie, on le devine très bien, il y a des pays qui s'en sortiront moins bien que d'autres, des villes qui sont plus menacées que d'autres, non seulement sur le plan de son site géographique ou de la zone climatique, mais simplement de ses ressources. On devine que la ville de Shanghai, dans toute son expansion, même si elle est sur le plan direct susceptible d'avoir des impacts importants suite à la hausse des niveaux de la mer, aura la capacité de se défendre. Or que d'autres villes, évidemment, en zone côtière, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, seront extrêmement vulnérables de par leur manque de ressources et leur niveau de développement encore assez peu élevé. Enfin, il y a la santé des populations. Caractériser la santé des populations, c'est déjà s'interroger sur la pyramide d'âge, sur les caractéristiques de l'état de ces populations, les profils de santé. Et si on conjugue tous ces éléments et on les met en interaction, on voit qu'on peut dresser un portrait qui peut varier très fortement du nord vers le sud, mais même à l'intérieur des pays développés, on peut imaginer que les situations et le degré et l'importance des défis sera fort variable. Donc, à ce moment ici, qu'est-ce qu'on doit considérer? Eh bien, de regarder jusqu'à quel point on peut faire virer le paquebot autant soit peu et de commencer à trouver un nouveau cap. Et on doit évidemment considérer quels sont les freins, quels sont les obstacles qui se présentent d'abord à nous, avant de trouver des solutions qui soient socialement acceptables et environnementalement défendables. Mais d'abord, dans les populations, les études d'opinion démontrent la problématique du changement climatique inquiète, mais il s'agit encore pour l'opinion publique d'un problème lointain. Et donc, il est extrêmement difficile de mobiliser l'opinion, de cibler des problématiques qui sont relayées dans les médias comme souvent des hypothèses lointaines et peu probables. Hormis des situations de catastrophe, des événements extrêmes qui, là, au contraire, sont directement associés, peut-être parfois exagérément, au bouleversement du climat, mais qui ont l'avantage d'attirer l'œil de la caméra et parfois nos élus qui y voient une opportunité pour démontrer toute leur compassion envers nos communautés. Une digue qui fait défaut, évidemment, pose des problèmes majeurs pour les populations, attire l'attention, appelle des solutions ponctuelles, mais ne se traduisent pas nécessairement dans l'élaboration de politiques à moyen et à long terme. Il y a la question des débats sur la ville qui sont principalement autour de projets de développement, de controverses sur les équipements. Ici, dans la région de Montréal, depuis 2-3 ans, on ne parle que des choix par rapport à des systèmes routiers, autoroutiers, toute l'attention est portée sur des enjeux de développement, d'investissement. On y associe parfois la problématique de la médication, calmer le trafic, réduire l'usage de la voiture, mais ça ne se décline pas jusqu'à la question de la vulnérabilité des populations ou la problématique plus générale de l'adaptation au bouleversement du climat. Enfin, la fausse opposition qu'on retrouve entre médication et adaptation, non seulement chez les décideurs, mais au sein du mouvement environnemental ici, très souvent, parler d'adaptation, de réduction de vulnérabilité, c'est perçu par certains dans le mouvement environnemental comme de baisser les bras, d'introduire, de partager l'énergie qui devrait être essentiellement consacrée aux problématiques de mitigation et de voir là le mouvement un petit peu s'éparpiller sur différentes problématiques. Alors, très souvent, on se fait interpeller par les environnementalistes comme étant ceux qui vont venir abrier les erreurs de notre génération et des générations précédentes, or que le vrai problème, c'est un nouveau modèle de société dans lequel ils n'introduisent pas nécessairement la problématique qui nous anime, c'est celle de la réduction des plus vulnérables. Et enfin, ce qui est peut-être encore plus difficile comme enjeu, c'est la question des savoirs adaptés. Alors, on voit évidemment dans nos tentatives de démarrer des projets sur la problématique de l'adaptation, sur la ville et sur d'autres dimensions, il est extrêmement difficile, comme l'interdisciplinarité est difficile en général, de mettre en relation des savoirs qui ont été développés sur d'autres bases, qui ont de la difficulté à servir de base de dialogue pour trouver des solutions. Et donc, on le voit encore aujourd'hui, j'apprécie ceux qui sont présents aujourd'hui, j'espère qu'ils seront porteurs des messages qu'ils entendront dans les prochains jours, mais évidemment, c'est l'université, c'est le système de la recherche, c'est le financement de la recherche qui irait dans le sens d'un objectif spécifique, orienté, qui est aussi un des freins à l'anticipation. La compétence versus les incapacités acquises, le vieux débat qu'on retrouve dans les bureaucraties, on peut le retrouver à l'échelle du virage qui est attendu dans les politiques ou encore l'introduction dans les politiques existantes de la problématique de la réduction de la vulnérabilité. Et ça, ça présuppose des changements de mentalité, mais aussi des changements de point de vue, l'arrivée de d'autres modes de raisonnement qui ne se construisent pas nécessairement dans une logique disciplinaire, ça on le sait. Donc, je crois qu'on pourra conclure là-dessus, que ces prochaines heures, ces prochains jours, nous amèneront à réfléchir aussi sur des nouveaux modes de production des connaissances. Il faut développer des savoirs orientés vers la pratique pour aider à résoudre des problèmes. Et il faut enfin dépasser la discussion sur l'interdisciplinarité et oser parler d'interdisciplinarité appliquée par rapport à la résolution d'un problème spécifique. Donc, il faut encourager la recherche qui permet de saisir la complexité des problèmes, prendre en compte les perceptions des divers problèmes selon qu'elles émanent des sciences, des communautés ou des décideurs, établir des liens entre savoirs abstraits et spécifiques à des cas concrets, et enfin, développer des savoirs et des pratiques qui s'inscrivent dans le projet de la viabilité urbaine. Alors, il y a différentes réflexions qu'on retrouve dans la littérature. Là, je crois que je n'aurai pas le temps de m'y attarder, mais il y a des options qui s'offrent à nous, des approches centrées sur les prétentions de la technocratie, de la science, cette idée de dicter des solutions dans une logique du haut vers le bas, qui est celle qui est presque naturellement pratiquée. Notre grand défi, c'est d'attirer l'attention, de démontrer l'intérêt, la pertinence d'une approche qui, par ailleurs, part des communautés, part de la spécificité des problèmes pour remonter plutôt vers l'idée de développer des capacités adaptatives en regardant les dynamiques sociales et en construisant avec les populations plutôt qu'en en leur imposant des politiques venues d'ailleurs. Et donc, je pense que l'intérêt de nos rencontres sera peut-être de mettre en relation des expériences de votre côté et de notre côté qui, en quelque part, interpelleront nos modes traditionnels de raisonnement. Et c'est finalement le défi le plus formidable qui nous attend. Voilà, j'espère que ces prochaines heures vous seront utiles et que vous participerez avec nous dans un proche avenir à un peu tenter de secouer les choses. Voilà, merci beaucoup.
Merci Laurent. Donc, tu peux peut-être laisser... Oui, bah, allez-y. Oui. Oui. Bien, on a un peu de temps pour quelques questions. En fait, tu n'as pas été si long. Hein. Enfin, moi, je fais à peine 20 minutes.
Ah bon, ben, peut-être que j'ai eu des mauvais signes.
Ah, ou on n'a pas pris l'heure au même moment. Bien, un peu de temps de questions. Honneur, vous souhaitez, vous pouvez démarrer. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Puis après, on démarrera de notre côté. Ou est-ce que vous souhaitez qu'on démarre? Il y a des questions? Laurent?
Moi, j'en vois pas ici, j'étais trop clair, je crois.
Donc, de notre côté?
Nous, on était très préoccupés de retrouver un peu l'horaire prévu ce matin, donc de passer presque dès maintenant à notre horaire.
Non, alors un point d'information. La dernière présentation d'Emmanuel Garnier, malheureusement, ne pourra pas avoir lieu parce qu'Emmanuel a des difficultés personnelles, parce qu'il s'est fait voler tout son sac. Et donc, du coup, il était coincé, il avait des difficultés. Donc, en fait, la dernière demi-heure sautant, on décale simplement. Même éventuellement, on peut mettre trois exposés. Peut-être qu'on peut passer l'exposé de Cinda après la pause café. Enfin, on peut s'organiser un petit peu... Tu vois, du coup, on n'a plus que six exposés. Donc, on peut faire trois avant la pause, la pause et trois après.
Bon, mais très bien. Je crois que Mme Smergiassi ne peut pas arriver avant 11 h, heure de Montréal. Donc, on s'ajustera en conséquence quand même.
D'accord. Des questions de notre côté? Moi, je peux peut-être commencer. Déjà, peut-être ton transparent, le dernier, peut-être que ce serait bien que tu le commentes un peu plus, du coup, puisque... Tu as dû passer un peu vite, ça peut être utile que tu prennes le temps d'expliquer les deux approches. Si c'est faisable.
Voilà.
Voilà, il va arriver.
Est-ce que vous avez
encore un, voilà. Est-ce que tu peux nous expliciter un peu?
Ben, en fait, la question on retrouve chez plusieurs auteurs. Les premiers qui se sont penchés sur la problématique, comme on le laissait entendre très souvent dans la littérature, étaient des climatologues soucieux de peut-être contribuer non seulement à mieux connaître le phénomène dans son ensemble, mais de voir comment, à plus petite échelle, on pourrait arriver à cerner des problématiques qui déboucheraient sur des politiques, des solutions. Très souvent, par l'exemple le plus caricatural est d'imaginer des digues pour résoudre le problème de l'élévation des niveaux de mer. Et on s'est rendu compte que le réflexe de Yaka est faire de nouveaux équipements pour se mettre à l'abri des éventuelles perturbations du climat a percolé et finalement a été les premiers réflexes qu'on a vus se préparer. Ici au Canada, les premiers fonds de recherche consacré à la problématique de l'adaptation, ont été essentiellement octroyés à des ingénieurs qui travaillaient sur les problèmes des égouts, des ports, éventuellement des équipements comme les équipements sur le pergélisol des aéroports, et donc des solutions qui engageaient beaucoup de fonds, mais qui étaient des solutions simplement d'accommodement et non pas de réduction de vulnérabilité comme telle. On résout le problème spécifique de l'aviation ou du commerce maritime ou encore de la gestion des eaux usées, mais on ne s'interroge pas sur des nouvelles façons de faire qui correspondraient au mode de vie, aux dynamiques sociales. Et donc, par opposition, on a opposé à cette approche du haut vers le bas, qu'on pourrait qualifier d'approche technocratique, où on pense plutôt en termes de régionalisation, des impacts, pour aller plutôt vers la vulnérabilité physique. On a opposé un regard qui était plus viré sur la vulnérabilité sociale, qui partait plutôt d'une réflexion sur un certain nombre d'indicateurs, certainement, par rapport à l'état actuel d'une société, mais plutôt dans l'esprit de développer des capacités d'adaptation, ce qui renvoie à des modes de raisonnement, à des postures, à des nouveaux types de savoir, à l'idée de jusqu'à quel point ces solutions peuvent être construites indépendamment des communautés et comment elles se traduisent dans un réaménagement des façons de faire à l'échelle des communautés. Donc, ces deux modes de raisonnement qui s'opposent et qui font appel à différents types de connaissances. Dans le premier cas, du haut vers le bas, c'est tranquille, rassurant. On utilise déjà nos modes de production de connaissances à peu près comme on l'a toujours fait, un peu en cylindre, toujours visant des objectifs spécifiques et en ne remettant certainement pas en cause nos façons de raisonner. Or que dans l'autre cas, là, tout à coup, on est interpellé dans notre façon de produire la connaissance avec les intéressés, soucieux, sensibles à leurs conditions particulières, et de voir comment on peut construire, non pas en silène, mais justement dans une interaction importante, dans des dialogues importants entre les disciplines pour arriver non pas à réinventer la société, mais certainement à introduire une autre façon de construire des solutions collectives. Voilà un peu comment se présentent les choses. Et pour moi, le défi se présente non seulement chez les décideurs, dans la société en général, mais interpelle certainement l'université.
D'accord, merci.